Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Crash Bandicoot Insane Trilogy, sorti en 2017 sur PlayStation 4. Il sera comparé aux jeux originaux qu'il reprend, notamment sous l'angle des bugs et caractéristiques de gameplay que l'on pouvait y trouver.
Première partie, présentation et problématique.
Depuis bien longtemps, le jeu vidéo s'est plu, au même titre que le cinéma par ailleurs, de reprendre, d'améliorer, de modifier ses titres afin de les rendre plus agréables et plus contemporains, peut-on dire. Avant même l'existence des patchs de correction et des DLC, les développeurs amélioraient périodiquement les versions de jeux pour en corriger les bugs les plus virulents et proposer, de façon plus ou moins déguisée, des remakes et des versions améliorées de leur tête d'affiche pour attirer les joueurs. On pensera, ne serait-ce qu'à la compilation Super Mario All-Stars, jadis, qui reprenait Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 sous ses deux versions, Super Mario Bros 3 avec un beau vernis graphique et, à présent, une pile de sauvegarde. Ou encore à Super Castlevania 4, qui fut présenté à son époque, au Japon, ne serait-ce, comme une reprise, plus ou moins directe, du tout premier Castlevania sur Famicom. Ce ripollinage est souvent mis en avant par les développeurs pour justifier la sortie nouvelle d'un ancien jeu, l'occasion faisant le larron et permettant d'inclure de nouvelles options. Super Mario 64 DS propose maintenant 4 personnages jouables et de nouveaux niveaux, Ocarina of Time 3D améliore notablement les graphismes et l'animation, le gameplay. Et ainsi de suite, de la même façon qu'un film ressortira, à l'instar des Star Wars de George Lucas, en tant de versions différentes améliorant la qualité de l'image et du son, ajoutant de nouveaux effets, corrigeant des faux raccords, et ajoutant des scènes lissant l'homogénéité générale de ce qui est, à présent ou dans un avenir proche, une généalogie. Dans cette émission, nous aimerions nous arrêter sur une trilogie de jeux de plateforme qui défrayèrent, en leur temps, la chronique. Les Crash Bandicoot de Naughty Dog, dont les épisodes originaux sortirent entre 1996 et 1998. Le premier épisode représentait une forme d'exploit technique pour la première PlayStation qui, avec un peu de roublardise, de programmation évidemment, se présentait comme une machine pouvant rivaliser, du moins en apparence, avec la N64 pour ce qui est de la gestion des environnements en 3 dimensions. Les deux épisodes subséquents continueront ce travail d'amélioration graphique et d'enrichissement du gameplay, dans un esprit qui n'était pas sans faire penser, du moins le lien peut se faire évidemment, avec les Donkey Kong Country de Rareware. Partant, le travail de Vicarious Visions, dans son Remastered Ancient Trilogy, ne pouvait que plaire à toute une génération, de plus en plus bruyante, qui a fait ses classes sur les Crash Bandicoot. Le jeu ne trahit pas ses promesses, du moins techniquement. Même si l'on pourra toujours arguer de la qualité musicale des reprises de tel et tel thème au regard des originaux, graphiquement, le titre s'installe parfaitement dans l'esprit contemporain du genre, de même que pour son animation. Le travail des développeurs, ainsi, a été à l'aune des autres du genre que nous avons rarement cités, et fut alors surtout porté sur l'amélioration et l'ajout. Ajout de challenge chronométré dans les deux premiers épisodes, alors qu'il n'était officiellement présent jadis que dans le troisième, des niveaux alors supprimés pour telle ou telle raison, un nouveau personnage inédit, Coco, est à présent jouable dans la quasi-totalité des niveaux. Mais ces modifications, finalement surtout plastiques, finalement de l'ordre du bonus, s'accompagnèrent de changements plus profonds du gameplay et de l'économie domestique immanente de ces différents jeux. Ainsi, dans le premier épisode, les checkpoints valident à présent les caisses brisées jusqu'à ce point-là du niveau, ce qui rend l'obtention des gemmes grises bien plus évidente. Dans le second, les écrans de chargement se colorent à présent de certains trucs et astuces, guidant le joueur vers les quelques secrets, là où jadis le jeu original se faisait bien plus cryptique, et ainsi de suite. Ces changements influencent directement la relation des joueurs au jeu, généralement dans le sens d'une plus grande facilité ou d'une plus grande accessibilité. Et quand bien même l'expérience de jeu globale serait-elle la même, le level design n'ayant jamais évolué, les ennemis et leurs comportements étant rigoureusement identiques à ce qu'ils étaient, chaque caisse étant à leur emplacement original, il est cependant un départ que nous proposons d'analyser en posant la problématique de l'émission comme suit. De quelle nature sont les changements liés à l'économie domestique des jeux Crash Bandicoot dans la trilogie refaite Insane?
Deuxième partie, la tentation du même.
Le principe de la reprise, de la refonte, de la réécriture est aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Dès les origines, qui de la littérature, qui de la peinture ou du théâtre, les artistes ont toujours repris les travaux de leurs prédécesseurs pour les améliorer, les modifier, les augmenter. On pensera à La Fontaine et à Ésope, à Potoche-Strauss et à Shakespeare, à un nombre incalculable de peintures de tel ou tel motif, de pièces musicales reprises, à l'identique ou presque, d'un modèle. Après tout, l'on dit que l'imitation est la plus sincère forme de flatterie. Ces palimpsestes, néanmoins, pour faire référence à un fameux ouvrage de Gérard Genette, développent une poétique complexe, matinée et du style de celui qui reprend et du style de celui qui est repris. Et le mélange est difficile à aborder, ne serait-ce qu'en matière d'identité et d'identification. Que faut-il garder? Quelle essence faut-il conserver pour permettre encore de dire que cette reprise est une nouvelle version de l'œuvre première? La balance est, en réalité, des plus subtiles à équilibrer. Trop reprendre, tout reprendre, c'est plagier. Reprendre trop peu, ou ne pas prendre ce qui fonde l'identité première de la chose, c'est être dans le domaine de l'inspiration, mais non de la réécriture. En ce domaine, peut-on dire, le jeu vidéo se situe dans une zone plus complexe encore, du fait de sa construction et de son langage spécifique. En littérature, et dans tout ce qui concerne l'écrit en général, les langues évoluant, les langues différentes, seul compte la reprise ou non des motifs. La peinture s'appuie sur une technique qui, mutatis mutandis, demeure immuable depuis ses origines. Les instruments se stabilisent. En revanche, le langage propre aux jeux vidéo s'entend, les briques fondamentales sur lesquelles s'appuie qui la jouabilité, qui le gameplay ou le son, évoluent notablement, ont évolué, de langage de programmation en langage de programmation, de support en support, ce qui rend la nécessité et les projets de moteurs de développement commun un projet capital. Ne serait-ce, la question de la musique apparaît cruciale. Lorsque, mettons, WayForward Technologies refont DuckTales, ils ne peuvent se permettre de reprendre telles quelles les sonorités métalliques du jeu NES original et doivent, à présent, l'orchestrer afin de la faire apparaître, comme on disait encore à l'époque, en qualité CD. Et ce changement est notable, quand bien même les mélodies demeureraient les mêmes. De façon plus intéressante, l'on sait parfois que certains codes sources ont, parfois, été perdus avec le temps, obligeant alors les développeurs à faire un véritable travail de rétro-ingénierie pour retrouver un jeu proche de l'original. On pense notamment aux nouvelles versions de Sonic Adventure qui furent ainsi reprises de zéro. La reprise du même ici se double d'une nouvelle problématique, celle des contraintes techniques qui ont pu, à un moment donné du temps, contraindre la programmation et amener des astuces dissimulant, plus ou moins bien, les problèmes rencontrés par les différents développeurs, contraintes qui ne se rencontrent point sur les générations subséquentes de machines, plus puissantes et moins tatillonnes. On sait ainsi, par exemple, que les nuages du premier Super Mario Bros. Furent réinvestis en buissons pour alléger le faible espace de stockage des premiers jeux NES. De même, le défilement par écran du tout premier The Legend of Zelda est une contrainte technique, qui eut cependant des conséquences diverses sur le placement des ennemis et des objets. Il convient donc non seulement, pour ces remakes, de raisonner en termes d'identité fondamentale, ce qu'il faut ou non garder pour conserver la forme de l'objet que l'on travaille, mais également choisir, ou non, de conserver ces contraintes qui peuvent avoir des conséquences sur les autres signes vidéoludiques, leur agencement ou le level design tout simplement. On pensera par exemple à Ocarina of Time 3D qui adoucit la gestion de l'équipement de Link et notamment des bottes de plomb, bien plus souple qu'à l'origine et qui facilite, partant, la conduite du temple de l'eau ne serait-ce. Mais alors que les limites et la gestion de celui-ci était auparavant conditionnée par cette contrainte de gameplay, le remake change sa progression en la facilitant, ce qui impacte conséquemment sa progression. La posture, en quelque sorte, est intenable et crée une tension difficilement résoluble. D'un côté, une amélioration graphique est nécessaire pour rendre la nouvelle sortie pertinente et s'insérer dans les contraintes contemporaines à son arrivée. Dans le cas contraire, les joueurs et les joueuses risquent, et à raison, de s'en détourner. De l'autre, tout changement conduit à des modifications qui engagent l'intégralité de l'économie domestique du jeu, c'est-à-dire l'équilibre des réseaux du signe. De la même façon que l'on ne peut descendre deux fois dans la même rivière, on ne peut ressortir deux fois le même jeu sans modification, plus ou moins profonde, de sa constitution. En ce sens, le jeu vidéo doit affronter ici trois problèmes fondamentaux. Deux sont communs à tout palimpseste, le troisième lui étant propre. Il doit, tout d'abord, identifier ce qui fonde le même et ce qui le distingue de son modèle. Ensuite, il doit affronter les nouvelles problématiques du moment de sa seconde sortie, l'évolution historique, sociétale, culturelle, qu'il doit à nouveau affronter. Enfin, il doit réfléchir au contraire propre de son langage, ce qui fait, en réalité, que tout remake est davantage une traduction qu'une simple sortie, avec tout ce que cela implique.
Troisième partie, errer et aberrer.
La trilogie Insane, reprise des trois premiers épisodes de Crash Bandicoot, est en plein dans ses problématiques, en ajoutant des difficultés qu'avait, jadis, rencontré Nintendo avec sa compilation Super Mario All-Stars. Faire un remake, non pas d'un seul jeu, mais de plusieurs, sortis successivement dans le temps et présentant chacun des nouveautés, des améliorations et des changements. Comment, dès lors, aborder concomitamment des œuvres qui, jadis, devaient être reçues successivement. Il est des aspects de ce travail qui sont facilement résolubles, ou du moins qui s'accommodent bien de cet assemblage, nommément les musiques et les graphismes. Même au regard des jeux originaux qui devaient s'appuyer sur des codes qui de gameplay qui est d'univers pour créer une continuité thématique entre eux, la refonte technique permet de créer une continuité apparente qui adoucit notablement la progression. Quelque part, tandis que les trois jeux originaux étaient autant d'histoires distinctes, nous aurions ici comme trois chapitres d'une seule et même histoire se déroulant, ce qui est d'autant plus appuyé par la reprise des cinématiques de fin et de début d'épisode qui trahissent ce soin de la continuité narrative. De même, la reprise, telle qu'elle, d'éléments de décor ou d'objets, les caisses en premier lieu, sans modification de comportement ou de taille, invite à lire ces jeux continuellement. Si cette initiative est plus appréciable, et si elle n'est pas sans de nombreux avantages, elle se heurte à la façon dont la difficulté de ces jeux s'étend, car, évidemment, ils n'ont pas été pensés pour être saisis dans une montée continue de puissance, la difficulté des premiers niveaux d'un certain jeu étant évidemment bien, bien plus basse que les derniers challenges du jeu antécédent. Les jeux se prêtent cependant à l'exercice, dans la mesure où, au contraire de ce que l'on peut voir dans d'autres séries, les Metroid par exemple, le personnage de Crash commence un épisode avec l'exact inventaire de ses pouvoirs antécédents, nonobstant l'ajout, appréciable mais déstabilisant, des chaussures de course pour qu'il bat le dernier boss du deuxième épisode. Mais, surtout, et ce qui est sans doute le plus déroutant ici, et ce qui influence directement la façon dont nous appréhendons ces jeux, c'est leur composante liée à leur gameplay, à leur maniabilité et, ici, à l'interaction entre le joueur et les ennemis, ce qu'on appelle encore les hitboxes et, plus largement ici, les différents bugs et erreurs de programmation que l'on pouvait trouver initialement. Loin de dire, car cela serait un mensonge, que les jeux originaux étaient particulièrement buggés ou qu'ils étaient injouables. Mais l'on sait également que le maniement du premier épisode, sa physique, était particulièrement délicate et qu'elle sera ensuite notablement améliorée par le support du DualShock à partir du deuxième épisode, que la réactivité globale du personnage s'est vivifiée, que ce qui était initialement et surtout une sorte de jeu de plateforme en deux dimensions et demie s'est progressivement transformé en jeu en trois dimensions pleines avec des possibilités de déplacement plus riches. Cette évolution notable a entraîné des modifications sensibles dans la façon dont les niveaux étaient pensés et la façon dont le joueur pouvait effacer les obstacles. Le positionnement plutôt rude du tout premier épisode permettait de naviguer sur les bords des plateformes, de jouer avec les hitboxes, de mettre à profit certains raccourcis de programmation pour ne pas être touché ou bénéficier d'un saut plus lointain, d'une invincibilité supplémentaire ou que sais-je. Certes, ces éléments n'étaient accessibles qu'à une poignée d'initiés, ne concernaient surtout que la scène du speedrun, exigeaient une connaissance approfondie des jeux premiers pour remarquer leurs modifications. Mais il ne s'agit point ici de raisonner sur l'amélioration ou la détérioration des jeux par ces modifications, mais la relation théorique entre l'objet jeu vidéo, en tant qu'unité culturellement, techniquement, ludiquement constituée, son histoire et ses praticiens. Pour le dire autrement, en quelle mesure un choix de gameplay, même malheureux, même issu d'une erreur ou d'une étourderie, fait-il partie intégrante de l'identité du jeu vidéo? On le sait, ou on peut effectivement le rappeler, ce qui fonde la spécificité du jeu vidéo au regard des autres formes médiatiques, c'est son interactivité, c'est sa plasticité, l'intégration active du joueur qui n'est donc pas un spectateur ou un lecteur, tout actif serait-il dans la construction de la signification. Ce qui fonde l'identité d'un jeu en cela, ce n'est pas seulement son apparence ou sa plastique, son univers, sa musique ou son histoire, mais bien la façon dont il se joue, les mécaniques qu'il permet et celles qu'il interdit. Toute modification de cet ordre est une atteinte directe à l'identité du jeu et compromet la reproduction du même. Et autant peut-on modifier musique, graphisme, apparence sans engager l'ensemble de l'œuvre, autant tout changement de jeu impacte nécessairement la relation entre le joueur et le jeu, et les bugs font partie intégrante de ces problématiques. Il en va ici de l'économie domestique du jeu vidéo, de ce qui fait partie ou non de son identité fondamentale, et les parties prises diffèrent lourdement ici. Généralement, les développeurs sont amenés à corriger les bugs qui impactent durablement la conduite d'une partie, les hard et soft locks, ou encore les erreurs qui effacent définitivement les fichiers de sauvegarde. Pour le reste, la chose est laissée à leur discrétion. Certains développeurs, Nintendo par exemple, font généralement le choix de les laisser à l'image d'Ocarina of Time 3D au regard de l'original. Vicarious Vision semble avoir choisi ici de corriger ses imprécisions, voire de les détourner sous un angle humoristique, comme on peut le voir dans le premier combat de boss de Crash Bandicoot 3. Jadis, une safe zone permettait d'esquiver certaines phases du combat sans heurts, mais dans le remake, la même zone rend non seulement le joueur vulnérable, mais il est assailli par des morceaux de fromage lancés par le public, le terme de « cheese » dans la culture vidéoludique anglophone, renvoyant à ce type d'exploit connu des joueurs. Il s'instaure alors un dialogue avec la communauté des joueurs, capitalisant certes sur des détails de programmation à présent corrigés, mais néanmoins mis en exergue dans une politique du remake qui en devient alors revendiquée.
Quatrième partie, patrimoine et jeux vidéo.
Ce que nous traçons finalement en creux dans notre réflexion présente, c'est également la question de la préservation patrimoniale de l'œuvre jeu vidéo. En admettant qu'un jour s'affiche dans un musée, comme on commence petitement à le voir aujourd'hui, quelle version de l'œuvre doit effectivement apparaître? L'original ou l'une de ses variations? Et parmi ces variations, laquelle choisir? Doit-on, ainsi et pour Crash Bandicoot, choisir le jeu original, en version américaine admettons si l'on se fie à la nationalité de l'équipe de développement, ou la première qui, chronologiquement, fut disponible sur le marché? Doit-on prendre la première version du remake, ou l'ultime après les énièmes mises à jour, DLC, patchs de correction, et ainsi de suite? Ou encore, doit-on tout conserver, comme on peut le voir à présent dans les différents ROM sets qui émaillent les internets? Toutes, répondront les goguenards. Et si je ne suis pas nécessairement contre l'idée d'une identité plurielle aux jeux vidéo, la chose manque singulièrement d'ordre. Dans la mesure où l'on ne saurait individualiser un point de gameplay pour en faire l'objet d'une exposition, puisqu'il doit nécessairement s'appuyer sur un jeu, il faudrait choisir LE jeu vidéo qui sait l'illustrer au mieux. Il y a une certaine poésie, quoi qu'il en soit, dans cette œuvre vivante, organique du jeu vidéo, qui n'est pas sans rappeler ces œuvres d'art que l'on voit à présent et dans lesquelles les spectateurs voyagent, s'interrogent, errent. Même, le jeu vidéo partage quelque chose d'une fraction de ses expositions, où participent à la fois certains happy few qui traversent les installations et les spectateurs de ces spectateurs acteurs. Et quiconque, ayant eu l'occasion d'observer un ami ou une enfant jouer, sait que l'on découvre ces jeux d'un œil neuf en n'ayant point une manette entre les mains. Jusqu'à présent, il me semble que la muséographie du jeu vidéo s'entend la muséographie académique, et notamment par le biais d'associations telles MO5, sans doute la plus connue, s'est surtout intéressée au patrimoine physique, corporel du jeu vidéo, les supports, les consoles, les accessoires insolites. La partie matérielle, éthérée et logicielle, se retrouve souvent dans les ouvrages historiques, dans les encyclopédies et les almanachs, certes grâce à un travail d'archives lourd et précis, mais au parcours nécessairement solipsiste. Et comme on peut s'en douter, il ne suffit pas de faire une exposition d'artworks ou de vidéos enregistrées pour diffuser du jeu vidéo. Au mieux, on aborde ses alentours. Cela pose alors des défis, immenses certes, nouveaux indubitablement, aux futurs conservateurs et conservatrices du jeu vidéo, qui voudraient faire entrer notre activité au sein des murs blancs des musées et des expositions. Sans doute déjà des réponses ont-elles été données, sans doute bientôt verra-t-on cette exposition magistrale qui fera entrer de plein pied le jeu vidéo dans les panthéons. Mais pour que cela se fasse, et si cela doit se faire bien, il faut s'interroger sur ces problématiques de version, sur ses bugs et ses écarts de programmation, sur ce que l'on garde, ce que l'on retranche, ce que l'on ajoute. Il faut donc construire progressivement comme une définition non seulement positive du jeu vidéo, cela les philosophes et les ergonomes l'ont déjà fait, mais également une définition historiquement située, stabilisée et solidifiée. Et cela est malheureusement, et encore, à faire, à ce que je crois. Non que rien n'a été fait. Comme nous le disions dans notre émission sur Super Smash Bros. Il y a 2 mois de cela, les éditeurs, Nintendo en premier chef, s'emparent de leur dimension patrimoniale en politisant le propos. La muséographie est toujours affaire de politique, bien entendu. Mais il est une nuance, cependant, entre une politique nationale, étatique, et une politique privatisée et capitaliste. L'on sait que la France a déjà décoré de l'ordre des chevaliers des arts et des lettres Ki Miyamoto, Ki Ansel. Notre pays aura vraisemblablement à poursuivre cette idée et à s'engager frontalement sur la préservation du patrimoine immatériel du jeu vidéo, ne serait-ce que de notre pays. Pensons, rien qu'avec Ubisoft, combien de choses nous pourrions faire. Il y a également, et ce me semble, un autre intérêt à ces démarches. Le figement chronologique du jeu vidéo, tandis que notre loisir est généralement considéré comme allant perpétuellement de l'avant, s'améliorant, se reméquant, se remasterisant. Une exposition telle que celle que nous imaginons, telle que celle que nous pouvons imaginer, aurait pour conséquence d'immobiliser ce flux toujours prospectif de la technologie et d'offrir une fenêtre étroite sur un certain instant de l'histoire, d'être dans une démarche non pas historique et diachronique, mais comme faisant état d'une synchronie déplacée. Et loin des wikis et des vidéos, loin des chroniques, ce serait là un instrument d'une belle force pour communiquer aux plus jeunes générations ce qu'était, jadis, le jeu vidéo que les plus vieux d'entre nous ont vu grandir. Surtout, cela permettrait également à cet académisme que le jeu vidéo appelle de ses vœux, que les créateurs et créatrices commencent à revendiquer, de s'associer intimement à notre loisir. Nous prêchons une direction inverse, et plutôt que ce soit au jeu vidéo de montrer patte blanche et de frapper à la porte, sévère et haute, du savoir critique et élitiste, que les agents géomètres viennent se baisser et caressent le joystick. Inversons la charge de la preuve. Et quelque part, ce ne sera que justice.
J'ai tué ton père.
Non, je déconne, c'est une autopromo pour un podcast. Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur RadioKawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs.
Super sympa.
Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite. Et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité. Et c'est un vendredi soir sur deux dès 21h sur Radio Kawa.
C'est complètement nawak.
Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père.
Il est quelle heure ?
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.